RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis, avec Melchior Gormand.
Si vous vous êtes déjà rendu au Parlement européen de Strasbourg, peut-être que vous êtes allé dans le bâtiment Louise Weiss. Tiens, Louise Weiss, mais qui est cette femme dont on célébrera vendredi les 40 ans de la disparition? Une femme profondément européenne et féministe, et nos invités vont nous raconter le parcours incroyable de Louise Weiss. Et en parlant d'Europe, il faut se l'avouer, parfois on n'y comprend pas grand-chose, hein, entre les différentes institutions, le Parlement, la Commission, entre ce que l'Union européenne nous apporte, ne nous apporte pas. Bref, on verra dans la seconde partie de l'émission comment rendre l'Europe un peu plus accessible, et notamment auprès des jeunes. Ce sera à 10h. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Bah déjà, dites-nous si vous connaissez Louise Weiss, et si oui, qu'est-ce qu'elle vous évoque? Et puis, plus généralement, quelle figure incarne l'Europe de nos jours? On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr et dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Avec une autre femme exceptionnelle qui m'accompagne chaque mercredi dans Je pense donc j'agis. Bonjour Madeleine Vatel.
Bonjour Melchior. Moi aussi j'aime bien l'Europe. Alors si je vous dis Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer, vous avez reconnu les pères fondateurs de l'Europe. Mais une autre voix a résonné dans le Parlement européen. Écoutez-la.
Mesdames et messieurs, les élus de l'Europe, les étoiles du destin et les chemins de l'écriture, m'ont mené à cette tribune pour y vivre, présidente d'un jour, un honneur dont je n'aurais jamais osé rêver, et une joie, la joie la plus forte que puisse éprouver une créature au soir de son existence.
Elle a une plus belle voix que moi aujourd'hui. Hein. C'est vraiment.
Et surtout, elle est devant un sacré hémicycle. Vous avez entendu les étoiles du destin, les chemins de l'écriture. Voilà, c'est très beau à écouter. On va la découvrir aujourd'hui parce que je ne sais pas si là vous avez reconnu vraiment Louise Weiss, née en 1893, décédée en 1983, et qu'on entendait s'exprimer ici le 17 juillet 1979, je le disais, dans l'enceinte du Parlement européen. Alors ce sera son dernier discours. Elle a alors 86 ans. Nous revenons aujourd'hui sur le parcours de cette femme dont on n'a encore rien dit, anticonformiste, plus jeune agrégée de France, tour à tour infirmière, journaliste, militante, députée européenne, aventurière aussi, et qui a fait de la paix un combat et de la curiosité un mode de vie. Que vient nous dire aujourd'hui le parcours étonnant de cette femme? Eh bien, c'est ce que nous verrons ce matin.
Avec nos trois invités jusqu'à 10h.
Oui, avec nous Yves Denechère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université d'Angers et au CNRS. Vous êtes auteur de plusieurs écrits sur Louise Weiss et notamment de l'ouvrage « Ces Françaises qui ont fait l'Europe ». Avec nous également Claire Levent, bonjour.
Bonjour. Oui, bonjour.
Vous êtes docteur en philosophie et professeur agrégé au lycée du Haut-Barre. Vous êtes chargé de mission par la ville de Saverne pour la promotion de la vie et de l'œuvre de Louise Weiss, Saverne tout près de Strasbourg. Avec nous également Eulalie Giraud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de mission à l'Office de la langue et des cultures d'Alsace et de Moselle et vous êtes investi dans le projet UE Parlons-en que vous avez cofondé. Vous êtes vous-même intéressé à la figure de Louise Weiss. Louise Weiss restait associée à l'Union européenne, mais à vrai dire, elle aurait pu avoir son nom en bien des lieux. Et c'est pour ça que je voudrais que vous nous disiez pour chacun d'entre vous, personnellement, pour ce premier tour de table, ce qui vous a touché chez elle. La première fois que vous avez découvert son nom, et est-ce que vous doutiez un seul instant qu'elle recouvrait une personnalité aussi forte, Yves Denechère? Est-ce que vous vous souvenez?
Oui, alors moi je suis historien, donc je ne suis pas vraiment touché par des personnalités
ou des objets
d'études. Mais ce qui est très intéressant dans la personnalité de Louise Weiss, c'est que vous avez parlé tout à l'heure des pères fondateurs de l'Europe unie. Il y en a quelques autres en plus de ceux que vous avez cités, mais il n'y a pas évidemment de mère fondatrice, on n'en parle jamais. Louise Weiss n'a pas été une fondatrice de l'Europe unie, mais elle a été une précurseur au même titre que Coudeneuf, Kalergi et d'autres, donc dans les années 20, à un moment où il n'était pas si évident que ça de professer sa foi dans une construction européenne au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et en tant que journaliste, en tant que militante de la paix, eh bien, elle a ouvert une voie. Et c'est évidemment ça que je retiens pour commencer.
Claire Levent, qu'est-ce que vous diriez, vous, de... Vous êtes aussi passionnée par l'histoire, mais par la philosophie, vous, alors, vous êtes peut-être touchée par les personnages que vous étudiez, que vous a évoqué Louise Weiss la première fois que vous l'avez découverte.
Alors, à vrai dire, je partage l'analyse de Yves de Necher, à savoir que quand on appréhende un personnage historique, évidemment, il y a une approche intellectuelle, rationnelle, qui relève donc de l'analyse. Mais la philosophie autorise aussi d'avoir un regard qui relève un peu plus, disons, de l'émotionnel, tout en bien sûr conservant une distance d'analyse rationnelle. Alors, qu'est-ce qui m'a touchée chez Louise Weiss et qu'est-ce que je trouve particulièrement intéressant d'un point de vue intellectuel ? Eh bien, pour moi, elle incarne la philosophie de l'engagement. Donc, c'est une figure pour moi existentialiste, au sens où, comme elle le dit elle-même, c'est une femme libre de son destin. Et donc, à ce titre-là, elle a été en capacité de penser des renouveaux, à la fois politiques, à la fois sociaux, économiques. Enfin, c'est une femme qui a des vues très larges. Et ses idées, elle les a traduites en actes. Et jusqu'à la fin de sa trajectoire, elle a su mettre une cohérence entre sa pensée et ses actes et manifester ainsi pleinement sa liberté. Donc, pour moi, c'est une femme émancipée, émancipatrice. Et c'est à ce titre-là que j'ai une affection toute particulière pour elle.
Merci beaucoup. Eulalie Giraud, qu'est-ce que vous diriez, vous, de cette Louise Weiss, femme incroyable dont on va découvrir le parcours ce matin ?
Alors moi, Louise Weiss, je l'ai découvert quand j'étais étudiante en histoire à l'étranger, quand je faisais mes études en Autriche. Parce que bon, j'étais dans un cours dans tout ce qui était histoire de la construction européenne. Donc c'est avec beaucoup de surprises finalement que je l'ai découverte, que j'ai découvert son parcours avec des sources aussi qui étaient extrêmement intéressantes. Et puis ça a un petit peu titillé disons, ma curiosité. Et puis je me suis rendue à Saverne pour en savoir davantage et au fur et à mesure finalement de cette découverte et aussi de ce voyage intellectuel, j'ai découvert une femme d'actualité dont les combats en tout cas qui étaient les siens durant le XXe siècle sont aujourd'hui d'actualité encore et je rejoins en effet Claire Levent, c'est une femme qui je pense suscite aussi beaucoup d'intérêt aujourd'hui, c'est une femme émancipée et c'est peut-être aussi une personne qui incarne et qui peut susciter des vocations aujourd'hui chez nos jeunes générations.
Alors Yves de Necher, on va revenir justement sur son actualité, sur ce qu'elle a pu laisser finalement dans notre temps présent, en posant, comme vous le disiez Claire, des actes et des actions qui sont restées aujourd'hui. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez, ça n'était pas si évident à l'époque de parler de paix au lendemain de la guerre. Qu'est-ce que vous diriez qu'elle a finalement inscrit, ancré au lendemain de cette Deuxième Guerre mondiale pour l'Europe, justement ?
Alors, au lendemain de la Première Guerre mondiale, elle crée, on peut dire ça comme ça, une revue hebdomadaire qui s'appelle l'Europe Nouvelle, qui est tout à fait innovante, si vous voulez, dans sa manière déjà de faire de la presse. Elle veut créer une grande revue, à l'instar des revues un peu anglo-saxonnes, et elle va donner la parole finalement à tous les hommes, plutôt que les femmes à cette époque, tous les hommes politiques qui ont des idées sur l'Europe. Et quand on dit tous les hommes politiques, c'est une grande variété, puisque en 1919, Mussolini, par exemple, écrit dans l'Europe Nouvelle, avant, évidemment, le parcours de dictateur fasciste qu'il a eu. Mais néanmoins, elle donne la parole non seulement à des Français, à des hommes politiques, mais à des gens qui sont engagés, à des économistes. Et comme ça, elle permet, si vous voulez, une certaine osmose, elle permet de créer un réseau qui promeut l'idée que, eh ben, il faut la réconciliation franco-allemande, bien sûr, et que grâce à cette réconciliation franco-allemande, on va pouvoir envisager la paix en Europe. Alors, on est au temps de la Société des Nations, on est au temps d'un certain nombre d'idéaux aussi autour de cette paix, le pacifisme est sorti de cette Première Guerre mondiale, mais vraiment, elle a un rôle de catalyseur. C'est pour ça que je dis que c'est une précurseur, Ce n'est pas elle qui va faire la construction européenne, ce sera une autre génération et ce sera un autre moment, mais néanmoins, vraiment, elle impulse un mouvement qui est tout à fait important et dans lequel les pères fondateurs vont peu ou prou se reconnaître, si vous voulez, hein, parce que ils vont être dans l'action, eux, après la Deuxième Guerre mondiale, à un moment, on en reparlera peut-être, où elle, j'allais dire, a fait un pas de côté vis-à-vis de tout ça. Mais vraiment, elle a impulsé quelque chose et elle a été capable de mobiliser des idées, des énergies et aussi de développer un certain nombre de concepts hein, autour de cette idée de paix en Europe.
Claire Levent, est-ce que vous reprendriez le terme de Yves de Necher de dire que c'est une précurseur ?
C'est une femme qui a anticipé le déroulement de l'histoire. Et comment c'était possible pour elle d'être aussi présente à son époque, aussi présente au présent, en fait ? C'est la chose la plus difficile. En réalité, tous, on analyse l'histoire après coup. Et ce que je trouve fascinant chez Louise Weiss, c'est qu'elle est capable de se positionner de façon claire et de façon pertinente, mais dans l'immédiateté de l'actualité ou de l'événement. Alors, d'où elle tient cette grande lucidité ? Parce qu'elle est profondément une femme de paix. Elle l'est profondément parce qu'elle a vécu une expérience fondatrice, celle de la Première Guerre mondiale, qui l'a bouleversée, qui l'a blessée, qui l'a heurtée, alors qu'il l'a heurtée à divers niveaux. Tout d'abord, elle a été infirmière de guerre, donc elle a tenu des corps mutilés, des corps abîmés, des corps blessés dans les mains, en fait. Et elle en éprouve un profond dégoût, elle le relate dans ses mémoires. Et puis, par ailleurs, dans sa famille, elle a des membres de sa famille qui se battent des deux côtés du front. Et donc, pour elle, il y a une forme d'absurdité. Comment cette grande famille européenne dont elle est issue, en fait, peut s'entretuer symboliquement ? Et donc, de ce fait, il est impératif pour elle d'agir pour promouvoir la paix. Et donc très vite, elle comprend qu'il faut mettre en place des institutions internationales. Alors bien sûr, d'un côté, construire une Europe unie avec l'amitié franco-allemande, hein, là c'est vraiment un essentiel. Mais de plus, eh bien, il faut un arbitrage international par la Société des Nations. Et donc là, elle va essayer, je trouve, de créer quelque chose de très fort, c'est-à-dire un tandem, un lien entre ces deux grandes institutions, la SDN et puis les prémices de l'Europe, si on veut. Alors, c'était pas encore une institution au niveau de l'Europe, bien sûr, mais en tout cas, elle pressentait que ça pouvait devenir, une construction avec des institutions comme un parlement. Enfin, elle anticipe tout cela. Et pour elle, il s'agit de penser à l'idée que finalement les États-nations vont avoir des logiques égoïstes, ils vont défendre leurs intérêts nationaux. S'il n'y a pas un arbitrage au-dessus, eh bien on ne parvient pas à une entente réelle et durable qui est fondatrice de paix. Et à ce titre-là, elle rejoint la pensée kantienne. Enfin, moi je trouve qu'elle est saisissante. Hein. Il y a beaucoup d'éléments philosophiques où l'on peut retrouver dans les positions de Louise Weiss.
Alors, développer simplement la pensée kantienne, je sais que ça ne va pas être facile en deux mots, mais simplement, où est-ce que ces deux pensées se rejoignent, celle de Louise Weiss et celle de Kant ? Puisque vous êtes professeur de philosophie.
Rapidement, Kant, c'est la paix perpétuelle, et il dit que, évidemment, c'est un idéal inaccessible, hein, mais que, à terme, par les institutions internationales, on parviendra petit à petit, en dépassant les conflits particuliers, à toujours améliorer le droit international qui doit prévaloir. Et donc, il me semble que dans la démarche de Louise Weiss, il y a vraiment cette idée que l'arbitrage international sera la clé pour dépasser les intérêts singuliers.
Et on vous fait découvrir ce matin Louise Weiss, vous l'entendez, puisque vendredi, on va célébrer les 40 ans de la disparition. Louise Weiss, hein, cette féministe, journaliste et puis profondément européenne. Si vous la connaissez, venez nous dire ce qu'elle évoque pour vous et puis plus généralement, quelle figure incarne l'Europe de nos jours, d'après vous. On vous attend 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr. Madeleine, on continue avec nos trois invités dans cette émission. Yves Denéger, Claire Levent et Eulalie Giraud.
Alors justement, Eulalie Giraud, on parlait de la pensée claire et pertinente, d'une forme de lucidité aussi de Louise Weiss. Si on reste sur ce thème de la paix, de la construction d'une société avec plusieurs États européens, qu'est-ce que vous diriez, vous, de la participation de Louise Weiss à cette construction ? Ou en tout cas, à ces idées qui viendront après ?
Oui, voilà, tout à fait. En tout cas, c'est ces idées qu'il faut retenir, je pense, dans la première moitié du XXe siècle, parce que finalement, elle s'est investie sur plusieurs fronts. notamment le premier, forcément l'Europe nouvelle, comme le disait Yves Denecher, qui a regroupé les élites aussi diplomatiques de toute l'Europe, aussi la construction européenne, notamment sous l'assistance peut-être, et le, c'est pas le terme, mais le, l'aide et l'amitié de, d'Aristide Briand. Mais aussi dans un second temps sur la construction aussi de la femme nouvelle, sur l'émancipation des femmes et pour que ces femmes aient un droit de vote et le droit d'être éligibles. Alors c'est vrai que la France est un petit peu en retard par rapport à d'autres pays européens à l'époque, mais toujours est-il qu'elle a participé à ça, même si elle n'a pas eu de résultats concrets puisque le droit de vote a été accordé. En 1945. Donc voilà, là-dessus, elle est tout de même précurseur, c'est certain, mais ses efforts, disons, durant la première moitié de l'entre-deux-guerres, ont annoncé une suite après la Seconde Guerre mondiale, mais n'ont pas apporté de concrétisation à cette période.
On parlait de la Société des Nations. Yves Denecher, j'entendais une interview où elle expliquait qu'elle était en colère finalement après, vis-à-vis de la Société des Nations. Racontez-nous, qu'est-ce qu'il fait qu'elle s'en est distanciée justement ?
La Société des Nations est créée juste au lendemain de la Première Guerre mondiale par le traité de Versailles du 28 juin 1919. Et cette création de la Société des Nations, elle est en quelque sorte touchée d'une faiblesse insigne, qui est le fait que les États-Unis n'en font pas partie. Ce qui fait que cette Société des Nations, c'est finalement et les vaincus de la Première Guerre mondiale n'en font pas partie non plus. Donc finalement, c'est un club de vainqueurs, surtout de pays européens. Et donc l'arbitrage international dont parlait Claire Levent, qui est essentiel dans l'idée effectivement de Louise Weiss, elle va très vite se rendre compte que cette Société des Nations, et elle y passe beaucoup de temps dans les couloirs à Genève, etc., elle va très vite se rendre compte que finalement on est là dans un cadre un peu stérile, que cette Société des Nations, elle ne va pas être capable de maintenir la paix, d'imposer la paix, de constituer, j'allais dire, un pouvoir, on peut dire, capable de faire, de limiter les ambitions des États-nations. Et donc, jusque dans les années, à la fin des années 20, au début des années 30, Louise Weiss y croit encore. Elle parle d'ailleurs dans ses mémoires de son apostolat pour la Société des Nations. Donc, elle est véritablement engagée. On a parlé d'Aristide Briand, des prix Nobel de la paix avec Stresemann, l'Allemand, en 1925. Elle est très attachée à Édouard Herriot. Et donc, on voit bien qu'elle est vraiment dans cette mouvance. Et à Jean Monnet, dans ces années 20 et 30, là, et elle est très liée à Jean Monnet, qui est secrétaire adjoint de cette Société des Nations. Donc, elle y croit, mais arrive la fin des années 20 et surtout le début des années 30, l'échec du désarmement mondial, l'arrivée d'Hitler au pouvoir en janvier 33, et là, très clairement, sa nouvelle école de la paix, qu'elle a créée en 1930, eh bien, elle se rend compte que tout ça est un peu dérisoire vis-à-vis des dangers qui sont en train de s'installer et qui menacent l'Europe. Et donc, c'est pour ça qu'en 1934, elle casse sa plume, comme elle dit, et elle quitte l'Europe nouvelle, et elle choisit de s'engager dans l'autre combat qu'on a évoqué un tout petit peu déjà, c'est-à-dire le féminisme et la lutte pour le droit de vote des femmes.
Claire Levent, ça m'intéresse le lien qu'elle a eu justement avec ces grands hommes. On a parlé d'Aristide Briand, on a parlé d'Édouard Herriot. J'aimerais que vous nous disiez quelle relation elle avait, comment est-ce qu'ils travaillaient ensemble, qu'est-ce qui était nouveau à l'époque, est-ce que ça choquait qu'une femme ait des discussions à ce haut niveau, puisse avoir des actions, des engagements. Qu'est-ce que vous diriez, c'était surprenant ou finalement déjà le chemin se faisait ?
Alors, évidemment, c'était surprenant. Louise Weiss, effectivement, est une femme dans un milieu masculin, le milieu d'abord journalistique, où elle exerce sa fonction de direction. C'est un milieu exclusivement masculin à l'époque, donc elle est vraiment atypique. Et à ce titre-là, elle en souffre. Hein. Dans ses mémoires, il y a des textes où elle dit que on la regarde parfois comme une bête curieuse ou comme un être androgyne, mi-homme, mi-femme, et qu'on est sévère avec elle comme on le serait avec un homme, et qu'on n'est pas indulgent avec elle comme on pourrait l'être avec une femme. Enfin bref, il y a des tas de textes en ce sens. Donc trouver sa place là, ça n'a pas été simple pour elle à l'évidence. Par contre, comme elle est excellente en termes de compétences et qu'elle connaît parfaitement ses dossiers, vu qu'elle les étudie intellectuellement de façon très serrée et puis après qu'elle se rend sur le terrain pour avoir des informations de première main, et pour elle, donc, elle dit hein, qu'une journaliste ne doit pas simplement étudier l'histoire, mais qu'elle doit y participer. Donc, pour elle, l'action découle en fait de la compréhension des situations dans le temps donné, dans le présent, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors ensuite, la relation avec toutes ces personnes. Effectivement, c'est une femme de relation, de réseau, et elle a l'intelligence des réseaux. Elle a plus de 750 collaborateurs hein, qui travaillent avec elle au niveau de l'Europe nouvelle, donc des élites intellectuelles de toute l'Europe, on l'a dit, hein, donc des, évidemment d'autres journalistes, mais surtout des hommes d'État, des hommes issus de la diplomatie. Des hommes, des élites politiques, intellectuelles, artistiques aussi. Hein. Elle est mécène d'art et elle a autour d'elle de nombreux écrivains. Voilà, elle est vraiment dans l'air du temps. Elle se tient au courant de toutes les innovations aussi au niveau artistique. Et donc, elle fréquente tous ces gens-là qui donc vont la rencontrer dans son salon européen à Paris. Hein. Elle tient près du Trocadéro. Elle a donc un hôtel particulier et elle reçoit toute cette intelligentsia européenne. Je crois qu'ils sont tous fascinés par sa vive intelligence. Et à un moment donné, je crois que le genre ne compte plus. Quand vous avez face à vous une personne qui est brillante, eh bien tout simplement vous êtes intéressé de mener un dialogue de grande qualité. Concernant Aristide Briand, alors il y a eu certains ragots disant qu'ils auraient eu une relation un petit peu amoureuse, ou en tout cas bon, tout cela évidemment ne tient pas. Il s'agit évidemment d'une relation de travail. Mais c'est avant tout deux esprits qui se rencontrent et qui ont les mêmes convictions et qui ont les mêmes analyses, qui ont compris que l'amitié franco-allemande est une condition sine qua non pour réinstaurer la paix sur le continent et qui voient des modalités concrètes de mise en œuvre par notamment au début la SDN, mais ensuite, comme l'a souligné Yves de Necher, elle sera désabusée, enfin elle sera déçue de voir que la SDN n'a pas de réelle efficacité. Alors, dans un roman qu'elle a écrit, qui s'appelle Délivrance, en 1936, il y a des passages assez sévères à l'égard de la Société des Nations, où elle explique qu'en fait, c'est un entre-soi où il y a beaucoup de bureaucratie, mais au fond, au niveau des actes, ils ne sont pas à la hauteur. Et enfin, je me rappelle d'une anecdote importante pour la Société des Nations, enfin anecdote, en tout cas dans ses mémoires, elle relate cela. Goebbels, donc en 33, évidemment, va prononcer un discours, un fameux discours à la Société des Nations. Et là, tout le monde applaudit. Tout le monde applaudit. Oui. Et elle, évidemment, pour elle, c'est inacceptable, puisque, comme elle l'écrit dans son édito du 18 novembre 1933, on ne pactise pas avec Hitler. Et donc là, elle va opter hein, pour le fait de casser sa plume. Donc plutôt casser ma plume que trahir ma foi. Hein, une femme de conviction, d'une honnêteté intégrale, enfin qui a une boussole de valeurs humanistes. Et donc, elle renonce finalement à la direction de l'Europe nouvelle. Alors, c'est un choix douloureux pour elle parce que précisément, elle va entrer en rupture avec toutes les relations qu'elle avait. Et son choix ne sera pas forcément compris de son entourage, puisque en 33-34, globalement, l'idée, c'est d'avoir des échanges économiques avec l'Allemagne, même si c'est l'Allemagne nazie. Et donc, peu importe, en fait, que ce soit une dictature, et peu importe qu'il y ait de l'antisémitisme rampant et que se mette en place une idéologie barbare. Et donc ça, pour elle, c'est absolument pas négociable. Voilà. Donc du coup, dans ses relations, elle est à la fois très ouverte, en capacité de tisser des réseaux très larges. Elle a des amitiés très fortes avec des chefs d'État, puisque elle est en capacité de répondre. Elle leur donne des idées. Sa pensée est une pépinière vivante d'idées qui peuvent être partagées. Mais par contre, elle est intransigeante sur les valeurs et même elle rentrera en rupture avec certaines personnes lorsque, au niveau humaniste, enfin les valeurs ne sont pas au rendez-vous.
Ben écoutez, on entend bien aussi toute l'exigence de cette femme dans ce que vous dites. C'est vrai qu'on peut encore aujourd'hui voir des interviews où on perçoit clairement son intelligence, sa gaieté aussi, le fait qu'elle soit très brillante. Eulalie Giraud, vous gardez quoi vous comme image, enfin si vous deviez dresser un portrait peut-être de son caractère, de son tempérament. On le voit bien l'empathie avec laquelle elle entre dans les conversations, l'intelligence aussi qu'elle a à rebondir sur les propos. Qu'est-ce qui vous marque chez elle dans son tempérament, dans son caractère, sa vivacité aussi?
Dans son caractère, ce qui me marque le plus, c'est sa liberté, en fait. C'est une femme qui est très libre. Je pense pas que ce soit une femme qui soit aussi particulièrement facile à vivre. Enfin là, ne l'ayant pas connue, je ne peux pas l'affirmer, mais toujours est-il que c'est une personnalité. En tout cas, moi, ce que je ressens à la lecture de ses ouvrages, à la discussion aussi de nos échanges dans le cadre d'un projet la concernant, j'ai l'impression que c'est une personnalité très vive, très intelligente, mais qui doit peut-être être caractérielle, c'est pas le terme, mais je pense qu'elle a besoin de peut-être une personnalité leader, voilà, une personnalité leader qui a besoin d'être un petit peu chef de file aussi, et peut-être que c'est difficile aussi d'être menée par d'autres caractères plus forts qu'elle, mais bon, tout ça c'est un ressenti personnel, et puis ça, voilà, chacun se fait sa propre idée, surtout quand on ne l'a pas connue. Voilà.
Allez, un peu de musique avec une figure du féminisme actuel, c'est Clara Luciani et ses chansons ne s'en lassent pas. Voici Tout le monde sauf toi, en attendant vos appels au 04 72 38 20 23. À tout de suite.
T'as toujours l'air d'arriver d'un long voyage en mer. Toi, tu as des ombres et des mystères. Tu vas le cœur en bandoulière. Et moi, je veux juste te regarder faire. Tout le monde se ressemble sauf toi. Tu ne fais rien de tout ça. Et ça me fait t'aimer comme personne. Tout le monde se ressemble sauf toi.
Clara Luciani sur RCF. Tout le monde sauf toi.
Je pense, donc j'agis. Melchior Gormand, Madeleine Vatel.
Et nos trois invités dans cette première partie. Yves Denecher, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Angers et vous êtes également l'auteur de plusieurs écrits sur Louise Weiss. Claire Levent, vous êtes docteur en philosophie et professeur agrégé au lycée du Haut-Bar et puis chargé de mission par la ville de Saverne pour la promotion de la vie et de l'œuvre de Louise Weiss. Et enfin, Eulalie Giraud, chargée de mission à l'Office de la langue et des cultures d'Alsace et de Moselle. Et vous êtes investi dans un projet qui s'appelle Union européenne, parlons-en. Gérard nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Bienvenue.
Oui, bonjour. Bon. Je voudrais simplement donner mon témoignage en tant qu'amoureux de l'Europe.
Oui, allez-y.
Simplement parce que j'ai vécu la guerre de 39-45 à Paris. J'étais dans le 5e arrondissement, élève au lycée Henri IV. Et quand ma mère allait faire son marché à Mouffetard, elle revenait avec un sac vide parce qu'il n'y avait pas grand-chose à acheter. Donc, pour moi, la création de l'Europe à la sortie de la guerre a été une merveille parce que c'était un espace de paix où on pouvait espérer avoir un bien-être et une solidarité très civilisatrice à l'échelle du monde. Parce que j'ai pas mal voyagé ensuite et j'ai découvert combien l'Europe était prophétique en un sens parce qu'elle est, elle est à la fois démocrate, tournée vers la liberté, avec des racines gréco-latines qui sont quand même pas n'importe quoi, des racines chrétiennes qui sont pas non plus n'importe quoi. Donc j'aime l'Europe et j'aime beaucoup que vous en fassiez état dans votre émission à travers la personnalité de Weiss.
Eh ben merci beaucoup Gérard pour votre témoignage dont je pense donc j'agis. Claire Levent, c'est intéressant parce qu'on sent vraiment l'espoir de Gérard à l'époque, hein, si on revient quelques années en arrière, cet espoir que formulait Louise Weiss pour l'Europe.
Alors, oui, effectivement, dans l'entre-deux-guerres, Louise Weiss a estimé que, suite aux atrocités de la Première Guerre mondiale, la seule issue, c'était la construction européenne. Et je tiens à rappeler que, avec ses collaborateurs, dans les différents numéros de l'Europe Nouvelle, donc du journal, hein, qui était un hebdomadaire qui paraissait tous les samedis matins, un hebdomadaire sérieux, puisqu'il y avait 50 pages par numéro, hein, donc c'était quand même des études très fouillées. Eh bien, avec ses collaborateurs, ils ont, numéro par numéro, pensé, rêvé, espéré cette Union européenne. Et ils ont posé des jalons très importants. Ils ont envisagé un marché commun pour permettre donc des échanges économiques facilités. Ils ont rêvé d'une monnaie unique. Ils ont mené des études en ce sens pour voir comment est-ce qu'on pourrait la mettre en œuvre et en quoi ça faciliterait les transactions financières. Ils ont également pensé à une culture commune, une culture européenne qui serait comme un bagage, une culture de la paix, qui serait un bagage commun à tous les Européens. Ils ont également anticipé, alors là, quand on le regarde maintenant avec le recul de l'histoire, la construction du tunnel sous la Manche. Et pour eux, il fallait absolument que l'Angleterre ne reste pas isolée, ne soit pas dans un éloignement insulaire, mais se rapproche du continent. Voilà, donc à ce jour, évidemment, on ne peut que regretter finalement le Brexit. Et je pense que tous ces constructeurs ou tous ces penseurs de l'idée européenne, eh bien, on serait profondément déçus. Alors, pour répondre à votre interlocuteur, et je trouve qu'il fait bien de dire qu'il est amoureux de l'Europe. Mmh. Louise Weiss le dit également de nombreuses fois, à quel point elle est amoureuse de l'Europe. Alors, ça touche la pensée, ça touche le cœur. On revient au début de notre interview. En fait, c'est un engagement total, c'est-à-dire que intellectuellement, on comprend que c'est une nécessité d'arriver à harmoniser les pays et les politiques au sein d'un groupement de nations pour aussi se positionner d'un point de vue mondial, puisque là, Louise Weiss le dit également. Elle dit que c'est l'Europe dans une géostratégie mondialisée. Elle voit la globalisation se mettre en place. Et donc, elle dit que si on veut avoir une place et ne pas, qu'il n'y ait pas une tempête sur l'Occident, comme elle le dit dans le titre de son dernier volume de ses mémoires d'une européenne, eh bien, il faut qu'on soit associés, unis. Et puis, par ailleurs, cette espérance qui a été évoquée, alors, je tiens à souligner que c'est bien sûr l'espérance de tous ceux qui ont connu les horreurs de la Première Guerre mondiale et qui voulaient que ce soit la der des der, et qui ont été déçus puisque le nazisme, évidemment, a réenclenché l'abomination d'une guerre mondiale. Mais cette espérance, Louise Weiss l'a eue tout au long de sa vie. Et là, j'apprécie beaucoup le fait que Eulalie Giraud ait insisté sur l'enthousiasme de Louise Weiss, sur cette fraîcheur, cette joie profonde. Mais pourquoi est-ce qu'elle est aussi joyeuse? Ouais. Alors là, Bergson a une réponse très claire. Les esprits créateurs qui innovent, qui créent, qui font advenir du nouveau, et dont la beauté éthique est incontestable, ont un rayonnement intérieur qui se manifeste par de la joie, dit-il. Et je crois que Louise Weiss en est le parfait exemple. Voilà, elle est extrêmement joyeuse parce qu'elle est consciente d'être coactrice de l'histoire à sa mesure, avec tous les autres, bien sûr, on n'agit jamais seul. Après, son caractère un peu dur ou un peu fort ou un peu affirmé, je crois que c'était une nécessité pour une femme de l'époque, pour arriver à trouver sa place dans tous ces milieux-là, il était impératif qu'elle soit très forte, et c'est peut-être aussi la racine d'une espérance. Hein, pour qu'elle soit forte, il faut un caractère trempé.
Une femme joyeuse, on l'entend, et ça nous parle hein, sur RCF, puisque nous, notre slogan, c'est « La joie se partage ». Bonjour Hugo.
Bonjour.
On vous écoute, bienvenue.
Mais merci beaucoup. Déjà, alors, je suis ravi d'entendre sur un média national une émission consacrée à l'Europe et à ses acteurs, parce que c'est un sujet qui est assez peu médiatisé. Il y a eu uniquement 3% des sujets des JT en 2022 qui concernaient l'Union européenne, et c'est vrai que, surtout à un an des élections, c'est vraiment très agréable de pouvoir entendre des émissions comme ça consacrées à des personnages historiques, en l'occurrence Louise Weiss, et je tenais à vous remercier pour ça. Moi, personnellement, je travaille pour les institutions européennes au niveau local, et je suis engagé depuis 5 ans associativement dans l'Europe, en ayant créé une association qui vise à expliquer l'Union européenne aux jeunes notamment. Et c'est vrai que s'appuyer sur des figures historiques, et alors d'habitude on parle effectivement des pères fondateurs de l'Europe, mais là on pourrait parler d'une mère fondatrice de l'Europe avec Louise Weiss, c'est toujours des moyens inspirants de pouvoir parler d'Europe avec des jeunes notamment, surtout que c'est aussi un hommage important qui a été rendu à Louise Weiss que d'avoir le bâtiment principal du Parlement européen qui porte son nom. Et c'est malheureusement quelqu'un qui passe dans l'esprit collectif des gens quand on parle de l'Union européenne et de son histoire un petit peu au second plan.
Oui.
On pense souvent à Monet, à Schuman, et plus rarement à Louise Weiss. Donc je trouve que c'est une très bonne initiative d'en parler aujourd'hui.
Eh ben merci Hugo, du haut de vos 20 ans, avec ce beau témoignage au 04 72 38 20 23. Yves Denechère, il a raison Hugo, on n'en parle pas assez de l'Europe, de l'Union européenne. Je vais généraliser un petit peu. Et puis de Louise Weiss, c'est vrai qu'on a fait un petit sondage autour de nous, hein, en préparant cette émission. On a dit, est-ce que vous connaissez Louise Weiss, on a eu beaucoup de réponses négatives. Et pourtant, il faut en parler, Yves Denechère.
Oui, alors on peut s'interroger justement sur cette invisibilité, on va dire ça comme ça, mais on va prendre déjà des précautions. Parce qu'on a dit beaucoup de choses sur Louise Weiss, tous les trois, évidemment, dans le sens de « elle est précurseur, elle fait beaucoup de choses, etc. » Mais elle n'est pas là quand les premières briques de la construction européenne se posent. En 1950, le discours de Monet écrit avec le discours de Schuman, pardon, écrit avec Monet. Les premières années, la construction de la CECA, la construction de la CEE, elle n'est pas là, elle est absente. Et on peut se poser la question du pourquoi. Pourquoi ? Pas parce que elle ne fait pas partie, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, de celles et de ceux qui ont éminemment et d'une manière très reconnue résister pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, évidemment, il y a là une ombre qui va peser lourd sur sa vie, son parcours après 1945. Après 1945, elle choisit de consacrer sa vie professionnelle à réaliser des documentaires, etc., qui vont rester assez confidentiels, hein, il faut bien le dire. Elle va faire des offres de services à Jean Monnet dans les années 50 en disant « mais je peux faire un film, par exemple, sur la CECA, je peux faire un film sur la Communauté économique européenne ». Et Monnet ne donnera pas suite, parce que Monnet considère que, pendant plusieurs années, elle n'a pas été là où elle aurait dû être. Et Monnet lui avait proposé, le 19 juin 1940, de partir avec lui à Londres. Louise Weiss a refusé. Et je pense que là, il y a eu une petite coupure importante entre Monnet et Louise Weiss. Monnet, dans ses mémoires, qui sont importantes, c'est un gros pavé, hein, ne cite pas Louise Weiss du tout. Et donc, on peut s'interroger sur cette question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas là dans la construction communautaire, si vous voulez, de l'Europe du début des années 50. Et on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais finalement, elle revient en quelque sorte dans le jeu dans les années 60, à la fin des années 60, en publiant ses mémoires. Et Louise Weiss nous est beaucoup connue parce qu'elle a écrit sur elle-même. Et là aussi, évidemment, l'historien doit prendre et tout chercheur doit prendre un recul vis-à-vis de tout ça. Et elle a construit aussi son parcours littérairement, si vous voulez. Et puis, dans les années 70, eh bien, elle va être finalement reconnue. Moi, ça me fait toujours penser un peu à Henri Dunant, qui a créé le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, autour des années 1860, qui obtient le prix Nobel de la paix en 1901, mais qui est presque retrouvé par hasard, en quelque sorte, à la fin du 19e siècle. parce que pendant très longtemps, il a été complètement absent finalement du développement de la Croix-Rouge. Ben là, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que dans les années 70, on va reconnaître en Louise Weiss, enfin, j'ai envie de dire, parce que c'était évidemment mérité, mais on va enfin reconnaître en Louise Weiss dans les années 70, eh bien, ce qu'elle a fait et ce qu'elle a apporté à l'idée européenne dans les années 20.
Alors, justement, eh bien, sur cette part d'ombre
dans ces années 70, et puis sa candidature et son élection au Parlement européen de 1979.
On est déjà quelques années plus tard, mais sur cette part d'ombre et sa participation, son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale, Claire Levent, vous souhaitiez réagir ?
Alors, effectivement, elle n'a pas répondu à l'appel du général de Gaulle et ni à l'invitation à se rendre à Londres. Mais justement, vous posiez la question du pourquoi. En fait, à cette époque-là, elle vit un des plus grands deuils de sa vie. Elle vient de perdre l'homme qu'elle aime le plus, auquel elle a consacré deux tomes de ses mémoires, donc le Chevalier de Saint-Magloire. Et elle est affligée. Elle est paralysée par à la fois une déception vis-à-vis de la politique internationale et puis par la perte d'un être infiniment aimé. Et donc, elle va avoir une période où tout simplement, elle est en deuil. Et donc, elle est absente à tout. Elle est absente à l'histoire, elle est absente à ses amis, elle est absente à... Voilà, elle a une année et demie où en fait, on voit que sa vie s'arrête et que... Alors, comment est mort le chevalier de Saint-Magloire ? Il était sur le pont des Andelys pour donc défendre la France contre l'invasion allemande. Et donc, c'était évidemment quelqu'un qui défendait la patrie, quoi. Et donc, tous ses idéaux s'écroulent. Elle est épuisée. Et donc, voilà. Donc là, évidemment, elle ne réagit pas peut-être comme on aurait souhaité qu'elle le fasse parce que c'était une femme qui était présente à l'histoire auparavant à chaque instant. Mais cette période, elle est aussi féconde, hein, comme toutes les périodes où on s'effondre, en fait. C'est une reconstruction. Et donc, elle va renaître de ses cendres. Et il faut quand même aussi préciser qu'auparavant, hein, elle a mis en œuvre dans un comité pour l'accueil des réfugiés persécutés par les nazis, donc pour les juifs, hein, d'abord en France, et ensuite elle a contribué à faire en sorte que le paquebot Saint-Louis puisse ramener des familles juives en les protégeant donc aux États-Unis. Elle a aussi chercher des médicaments pour la France pendant cette période. Mais en tout cas, là, elle a effectivement une parenthèse. Lorsqu'elle va se ressaisir, elle est menacée. Il faut rappeler que du côté maternel, elle est d'origine juive. Et donc, de ce fait, eh bien, elle est directement menacée par l'idéologie antisémite de la barbarie nazie. Et elle va apparaître même sur une affiche de propagande, la dénonçant comme juive. Et elle va devoir entrer en clandestinité. Elle va avoir elle va demander d'avoir un papier d'identité faussé, une fausse carte d'identité. Et elle va par ailleurs, grâce au réseau de son père, essayer d'avoir des cartes établissant le fait qu'ils ont été baptisés protestants et qu'ils ne sont plus juifs.
Donc et ça son va père est protestant et sa mère est juive.
Son père est protestant. Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc du coup, par ce biais-là, ils vont être protégés un temps, du moins sa famille proche, mais sa famille plus éloignée, ça ne sera pas le cas. Elle a un oncle et une tante et une cousine qui sont déportés à Auschwitz et qui ne reviendront pas. Et puis, malgré tout, elle est convoquée à la Gestapo. Elle va devoir se justifier. Elle sent que ça devient une période extrêmement dangereuse pour elle. Elle entre en clandestinité. Elle doit aussi cacher ses tableaux, ses œuvres d'art, ses manuscrits qui seront en partie volés par les nazis, ramenés à Berlin et ensuite qui partiront à Moscou. Enfin bref, il y a toute une histoire concernant le vol de ces manuscrits et qui ne reviendront pas de manière intégrale. Il y a des choses qui ont disparu. Et en tout cas, elle entre en clandestinité et elle dit dans ses mémoires qu'elle était dans le réseau Patriam Recuperare avec donc Albert Kirchmeyer qui le dirigeait et ensuite le colonel Eschen. Alors évidemment, il faut prendre la distance vis-à-vis des mémoires, on est d'accord. Mais c'est quand même assez cohérent de se dire qu'une femme qui en 33 écrit « On ne pactise pas avec Hitler », qui dans les numéros de l'Europe Nouvelle ne cesse de dénoncer les lois antisémites, eh bien, et une position, évidemment, de rejet. Elle appelle Hitler « haï » dans ses mémoires. Adolf Hitler, elle prend les lettres de début, hein, et ça fait « haï ». Donc, il y a une détestation, en fait, du système nazi. Et lorsqu'elle décrit Hitler, c'est toujours de façon très féroce. Alors, il y a une pièce de théâtre qu'elle a écrite qui s'appelle « Sigmaringen » ou « Les potentats du néant », qui est hyper révélatrice de sa position de résistante, en fait, intellectuellement et je pense aussi dans les actes. Alors, on pourrait dire, la résistance, c'est poser des actes et donc des actes très concrets. Alors là, si on prend cette définition étroite de la résistance, je suis d'accord qu'elle n'est pas allée dans les maquis, elle n'a pas rejoint les maquis, elle n'a pas pris les armes. Par contre, elle a fait une résistance par la plume. On a au musée des brèves.
Donc c'est le musée de Saverne, on redit.
Du nom de Valentine. Au musée de Saverne, bien sûr, donc dans le château d'Héron, on a des collections Louis Weiss et on a des brèves signées du nom de Valentine à Jean 1410. Et donc, elle dit être cette Valentine. Alors évidemment, l'historien a besoin de corroborer ces éléments. Hein. Alors nous, un élément objectif qui quand même montre que d'une manière ou d'une autre, elle a participé à ce réseau de façon plus ou moins proche. Alors, deux éléments même objectifs. Premièrement, elle a, de Albert Kirchmeyer, elle a la petite plaque de Mauthausen qu'il ramène, parce que lui a été déporté et donc est revenu, et il lui offre au retour. Alors, on pourrait dire, oui, s'il lui offre, c'est un geste amical, ça ne veut pas forcément dire qu'elle a fait partie du réseau. Je trouve ça un peu étonnant. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est pour moi quand même assez significatif. Mais le deuxième élément, encore plus, me semble-t-il, rationnellement objectif, c'est qu'elle a, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, un différend juridique avec le colonel Echen, qui était donc le second chef de ce réseau, et elle lui demande des fonds parce que leur journal de résistance, après la période de la guerre, eh bien continue à être diffusé, et comme elle a investi beaucoup de fonds, elle estime qu'elle doit aussi recevoir des dividendes. Et donc, le tribunal lui donne raison. Les actes voilà. Donc, en fait, elle a au moins soutenu financièrement un journal de résistance. Voilà, donc je pense que c'est des éléments qui peuvent quand même un petit peu contrebalancer le fait qu'elle se serait désintéressée ou qu'elle se serait détournée de l'engagement dans cette période. Et enfin, on peut dire que le général de Gaulle lui-même l'estimait beaucoup. Il l'a invité plusieurs fois à l'Élysée, il lui a dédicacé ses mémoires d'espérance ou d'espoir. Et donc, évidemment, je dirais que sa résistance, c'est pas une grande résistance, c'est une résistance par la plume. Mais à l'époque, c'était quand même très dangereux. Et je dirais qu'elle a été clairement menacée, directement menacée en tant que femme intellectuelle juive. Et donc, elle a œuvré à sa mesure, dans la limite de ses forces à cette époque, pour protéger d'autres personnes juives et pour lutter pour les valeurs qui lui étaient chères, la liberté, l'émancipation, la démocratie, le respect des droits humains.
En tout cas, on entend bien la complexité aussi d'un personnage, quand parfois on reproche de vouloir porter au nu une personnalité. Mais on entend ici tout à la fois les pardons, la complexité, les recherches historiques. Je voudrais qu'on termine cette émission avec ses convictions religieuses. En tout cas, son rapport à la foi et au sacré, peut-être de manière un peu plus large, mais de quoi vivait-elle, entre guillemets, au niveau spirituel? Qu'est-ce qui l'animait, Yves de Necher?
Oui, alors ça, deux mots pour l'échange qu'on vient d'avoir finalement.
L'historien veut avoir le dernier mot.
Non, c'est pas la question. Oh, non, justement, pas du tout. Vous allez voir. Non, tous ces faits qui ont été évoqués là sont bien connus. Je redis juste que après la Deuxième Guerre mondiale, j'ai presque envie de dire peu importe les raisons à la limite, mais elle apparaît et notamment pour un Jean Monnet. Comme quelqu'un, eh bien, qui fait partie des années 20, qui ne fait plus partie de ceux qui sont en action au début des années 50. Hein. Alors que ce soit, ressenti d'une manière peut-être injuste, etc. Ça, j'allais dire, on peut évidemment discuter là-dessus. Mais c'est un fait. C'est un fait qu'elle n'est pas là. Elle ne fait pas partie des pères. Elle ne fait pas partie des fondateurs. Et donc c'est intéressant d'ailleurs, hein, on va conserver et utiliser ensuite le vocable de père fondateur. Mais elle n'est pas là et elle n'agit pas à ce moment-là. Et ça c'est marquant. Sur le plan de la religion, bon c'est surtout, enfin dans les années 40-50 quand elle va tourner ses films un peu. Dans le monde entier, là, elle s'intéresse beaucoup hein, aux autres, j'allais dire aux religions hindouistes, bouddhistes, etc. On parle souvent, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais de 1973 et de sa lettre à un embryon, c'est-à-dire un écrit contre l'avortement où elle considère que le débat sur l'interruption volontaire de grossesse est en fait quelque part un cadeau qui est fait aux hommes pour qui va les déresponsabiliser. Et donc évidemment elle va être en opposition avec Simone Veil sur cette question, et elles se retrouveront d'ailleurs au Parlement européen le 16 et 17 juillet 1979 et aussi un peu dans la campagne pour les élections européennes de 79, mais un peu seulement parce que c'est très distancié.
Eulalie Giraud, qu'est-ce que vous diriez sur ses convictions, son lien au sacré, son lien justement aux convictions humanistes peut-être aussi?
Alors, le lien au sacré, c'est vrai que je laisse la réponse à peut-être Claire Levent et Yves Dénécher, qui sont peut-être plus avertis sur cette question-là. Sur ce qui est de l'humanisme, je pense qu'elle l'a largement prouvé par l'ensemble de son œuvre sur quasiment l'ensemble du XXe siècle, enfin en tout cas les deux tiers du XXe siècle. Elle a énormément œuvré pour la paix, comme on vient de le dire durant toute cette émission. Elle a énormément aussi œuvré pour la liberté. Ça va de fait et de pair. D'ailleurs, nos institutions européennes en sont aussi les héritières directes. Le Parlement européen, les fondements de la démocratie européenne reposent aussi sur les travaux, les œuvres et les engagements de cette femme. Même si on l'a dit, elle n'a pas proprement dit participer à la construction européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais je pense en tout cas qu'elle a œuvré pour une construction d'une union des peuples. Et là, je rejoins vos invités dans la mesure où elle est par l'Europe nouvelle, elle a posé des jalons importants, dont notamment la création d'une culture commune. Enfin, en tout cas, c'était l'une des volontés. Et on le voit encore aujourd'hui. La question 2023, c'est de cette volonté de construire d'ores et déjà une union des peuples quand elle l'écrit. Est-ce que nous y sommes réellement aujourd'hui? Est-ce que cette union des peuples existe?
On va laisser la question à nos auditeurs. Et puis Claire Levent, je voudrais vous faire rebondir justement sur ses convictions, son lien au sacré, son lien à sa foi aussi, puisque vous nous dites qu'elle a son père protestant et sa maman juive. Comment est-ce qu'elle se situe?
Alors, très rapidement, je voudrais juste préciser que, bien sûr, elle n'est pas une mère fondatrice de l'Europe, à l'évidence, mais elle a été appelée la grand-mère de l'Europe par le chancelier Helmut Schmidt. Donc, en fait, je pense que elle, sa contribution, elle est spirituelle et intellectuelle, elle est dans l'entre-deux-guerres. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été au rendez-vous de l'histoire dans la véritable construction européenne dans les années 50? Parce qu'on ne lui a pas laissé prendre une place, elle était une femme. Et donc à l'époque, je crois que c'était trop tôt de laisser une place aussi importante à une femme. Elle a proposé d'être la journaliste de la construction européenne, ça lui a été refusé. Alors sans doute parce que Jean Monnet a mal compris son refus précédent lorsqu'il fallait rejoindre De Gaulle à Londres, peut-être. Peut-être aussi qu'il y avait des divergences intellectuelles et puis aussi de personnalité. En tous les cas, je pense que le fait qu'elle ait été une femme a vraiment fait en sorte qu'elle a été écartée. On ne parle que de père fondateur de l'Europe. Mmh. Il n'y a pas de place pour les femmes à cette époque. Donc ça, c'était un peu pour répondre pourquoi elle n'était pas là. Mmh. Ensuite, elle a été ailleurs. Elle s'est dit, et précisément, ça rejoint la question de la spiritualité. Si on ne me laisse pas collaborer à cette construction pour laquelle j'ai tant œuvré précédemment, eh bien, en fait, moi, je vais réétudier les choses et voir en quoi l'Europe se positionne dans le monde, dans la globalisation. Et donc, elle entame ses grands voyages. Alors, elle le fait à titre ethnographique, mais aussi dans le cadre d'études sérieuses de polémologie et d'irénologie. Et ça, j'aime bien y insister. Elle va faire des documentaires très intéressants qui vont être diffusés, notamment à l'Élysée. Mais surtout, elle va étudier les facteurs belligènes. Comment est-ce que des éléments vont enclencher des guerres? Et inversement, comment peut-on faire, comment, avec certains paramètres, certains leviers, peut-on éviter ces engrenages infernaux? Ça, c'est l'irénologie, science de la paix. Et là aussi, science de la paix, son approche, elle est scientifique. J'y insiste. Alors, concernant sa spiritualité, effectivement, du côté paternel, donc ils sont protestants, du côté maternel, ils sont juifs. Les deux familles ont une vision assez laïque de la religion, assez sécularisée. Et pour eux, ce qui leur importe le plus, c'est la philosophie des Lumières. Et donc, c'est une culture humaniste et concernant Louise Weiss, ses voyages lui permettent d'étudier différentes cultures dans le monde. Et elle parle d'illumination à un moment donné. Et elle dit que ce qui est important, c'est les illuminations de l'esprit humain dans sa globalité qui ont une portée universelle. Donc pour elle, les chapelles, c'est pas important. Ce qui est important, c'est une spiritualité universelle tournée vers la paix.
Eh bien, beau portrait de Louise Weiss durant toute cette matinée. Merci Claire Levent, vous êtes docteur en philosophie, professeur agrégé au lycée du Haut-Bar et chargé de mission pour la ville de Saverne pour la promotion de la vie et de l'œuvre de Louise Weiss, Saverne près de Strasbourg. Merci aussi Yves Denecher, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université d'Angers au CNRS, auteur de plusieurs écrits sur Louise Weiss et de l'ouvrage « Ces Françaises qui ont fait l'Europe ». Merci aussi à vous Elalie Giraud, vous êtes investie dans le projet UE Parlons-en. Merci beaucoup à tous les trois. Melchior.
Merci Madeleine.
On continue avec l'Europe ?
Oui, tout à fait. Avec l'Europe, on va voir comment, on va dire, démocratiser l'Europe, ou en tout cas la rendre un peu plus accessible, notamment auprès des plus jeunes générations. Je suis confus pour ma voix. Hein. J'espère que je vais tenir pendant une heure.
Ça vous va pas mal.
C'est gentil. Vous allez me faire rougir. On attend vos appels toujours au 04 72 38 20 23. À tout de suite.